France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Annick Simon et sa belle voix de soprano qui fut très présente à la radio dans les années 50 où elle a tout chanté, de l'opérette à la musique contemporaine. Également habituée du festival d'Aix-en-Provence, elle a poursuivi sa carrière à l'Opéra de Francfort auprès des plus grands artistes allemands, toujours pleine d'énergie et passionnée par la transmission. Annick Simon à mes côtés dans une quinzaine de minutes. En fin d'émission, la chronique de Martin Péné sur les chansons du trottoir. Mais pour bien commencer le week-end, je vous propose une petite promenade au bord du lac en amoureux.
Sur le bord du lac Léman, un beau jour d'été, je la vis passer et sans hésiter. Voyant son regard charmant, je lui dis bientôt: voulez-vous faire un tour en bateau? Oh non, dit-elle en rougissant, j'ajoutais très prévenant: donnez-moi la main, mamselle, et ne dites rien. Mon canot vous semble frêle, donnez-moi la main. Seul sur la rive, vous semblez craintive, n'auriez-vous pas le pied marin? Donnez-moi la main bien vite, vous ne voulez pas. Redouteriez-vous, petite, de faire un faux pas? Lancez-moi votre ombrelle et quittez cet air inquiet. Donnez-moi la main, mamselle, ça y est. Nous voguions très lentement et je l'admirais en pensant tout bas quel sourire frais. Un beau cygne fièrement passa près de nous. Elle fit un mouvement si doux que tout à coup, n'y tenant plus, je murmurais très ému: donnez-moi la main, mamselle, et ne dites rien. Puisque l'amour nous appelle, donnez-moi la main. Laissez-moi vous dire que je vous désire, que c'est plus qu'un petit béguin. Donnez-moi la main, bien vite, vous ne voulez pas. Refuseriez-vous, petite, de faire un faux pas? Ouvrez grand votre ombrelle pour nous cacher des curieux. Donnez-moi la main, mamselle, c'est mieux. Puis ce fut le charme exquis du plus doux baiser que sur un bras blanc ma lèvre est posée. Ce baiser m'avait conquis, troublé même au point que je voulus aller bien plus loin. Mais voyant qu'elle tremblait de peur, je compris enfin sa candeur. Donnez-moi la main, mamselle, et ne craignez rien. Pardonnez mon trop grand zèle, donnez-moi la main. Voyez, je suis sage, voici le rivage. Quittons-nous, tels de bons copains. Donnez-moi la main bien vite, oui, comme cela. Ne redoutez plus, petite, de faire un faux pas. Reprenez votre ombrelle, faites-moi vos jolis yeux. Donnez-moi la main, mamselle, adieu.
Maurice Chevalier au sommet de son art dans ce Slow Fox de 1935. Ça a été créé en même temps que Prosper Yop Laboum dans la revue Parade du Monde au Casino de Paris, une revue d'Henri Varnat. Donc en septembre 1935, les paroles étaient de Pierre Bell et la musique de Valsien. Gostosino. Les lusophones me pardonneront la prononciation, mais ils auront certainement reconnu Jacob do Bandolim, le grand maître des cordes brésiliennes, ici dans un enregistrement d'août 1952. Et après Maurice Yvain, au premier trimestre, nous poursuivons notre balade viennoise en cet hiver avec quelques chefs-d'œuvre de l'opérette viennoise. Aujourd'hui, j'ai choisi l'un des grands compositeurs classiques du genre, Karl Mielke, dont tout le monde connaît bien sûr la du Barry et plus encore peut-être l'étudiant pauvre, mais aussi composé un peu après le succès de l'étudiant pauvre, Gasparone, une autre très belle opérette, adaptée d'ailleurs plusieurs fois au cinéma, notamment aux États-Unis, et qui a laissé dans les mémoires au moins cette jolie valse interprétée par Franz Völker.
Er soll dein Herr sein, wie stolz das klingt. Geltung hat's leider nur sehr bedingt, denn man besieht sich in der Nähe. Solche in Sizilien. Hier steht der Ehemann stets vor der Tür, der Zitzis Pius ist drin bei ihr, ganz ungeniert, und das passiert in den besten Familien. Lang blieb sie im Bette, spät macht sie Toilette. Endlich sitzt sie im Glanz, spielt mit dem Rosenkranz. Draußen am Herd sitzt und schwitzt der Mann. Kocht ihr Schokolade, sie mit dem Abate. Plaudert vom Seelenheil oder vom Gegenteil. Wirtschaftlich geht sie nicht an. Horch aus dem Gemachen, süße Stimmen klang, voller Zwiegesang, und der Mann hält draußen Wache, lauscht auf den Tenor, spitzt das Ohr. Er muss Braten wenden, bei der Wäsche stehen, nach der Suppe sehen, hat zu tun an allen Enden, weil ihr Freund so bei ihm speist. Geh, man ruft sie zum Abendkaufwein, schau nach, warum die Kinder so schreien. Du störst uns hier, wir machen Musik, und er zieht sich zurück. O armer Ehemann, bist du übel dran? Nein, Gott dank ich schön, muss ich gestehen. Er soll dein Herr sein, wie stolz das klingt. Geltung hat's leider nur sehr bedingt, denn man besäß sich in der Nähe. Solche in Sizilien. Hier steht der Ehemann stets vor der Tür, der Zins ist Bios ist drin bei ihr, ganz ungeniert, und das passiert in den besten Familien.
Le grand chanteur Franz Völker dans cet extrait de Gasparone enregistré en 1929. Gasparone, donc opérette de Mielke, composée en 1884 et créée au théâtre An der Wien, à Vienne bien sûr. Opérette qui raconte une histoire de séduisant bandit, tout à fait dans la tradition de Fra Diavolo. D'ailleurs, l'action se passe en Sicile en 1820 et on y voit donc une belle dame séduite par cet homme qui ne pense qu'à dérober ses biens et Tout cela avec évidemment de magnifiques valses et bien d'autres choses, notamment on va l'entendre dans ce final du second acte, très beau final avec ce passage dans lequel on va retrouver deux très grands interprètes, Annelies Rothenberger et Hermann Prey. Malheureusement, on ne peut pas l'écouter en entier ce final, mais je tenais beaucoup à ce passage magnifique, toujours extrait donc de Gasparone et de Millecoeur, cette opérette qu'on entendait ici dans un bel enregistrement allemand de 1981 avec Hermann Prey, Annelies Rothenberger, l'orchestre de la radio de Munich sous la direction d'Heinz Wahlberg. Et il est dit que la musique viennoise est à l'honneur ce matin, car vous allez l'entendre dans un instant, mon invité en a beaucoup chanté, elle aussi, mais elle a chanté presque tout, et notamment aussi bien sûr l'opéra français, Debussy, l'opérette, la musique contemporaine. Elle a chanté en France et en Allemagne, c'est une très belle carrière, commencée au tout début des années 50, que nous allons retracer aujourd'hui en compagnie d'Annick Simon.
Thank you.
Bonjour Annick Simon.
Bonjour Benoît Duterte.
Merci d'être avec nous et cette entrée d'Adèle. Là, c'est vraiment très brillant pour commencer. Cette œuvre que vous avez chantée beaucoup en français et en allemand
en
d'ailleurs.
En français et en allemand, oui.
Voilà,
oui.
Vous préférez quoi?
En allemand.
Oui.
Vous savez, je suis contre les traductions.
Oui.
Parce que je vois, je fais beaucoup travailler des mélodies de Schumann et tout ça. Et tout d'un coup, j'entends un élève qui n'a pas la couleur de voix voulue. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Et je m'aperçois que le traducteur parle du printemps, alors que les mots allemands, c'est la neige et l'hiver.
Oui, c'est gênant.
Alors ça me choque un petit peu, parce que c'est quand même pas la même couleur.
En tout cas, vous avez le double point de vue, on en parlera tout à l'heure, parce que vous avez fait une carrière en France et une autre carrière, si j'ose dire, en Allemagne,
oui.
En troupe. Donc vous avez chanté effectivement tout ce répertoire qu'on traduit quand même souvent de l'opérette dans les deux langues.
Exactement.
Voilà, et là, c'était donc Johann Strauss. On peut dire d'ailleurs que votre voix, naturellement, est portée vers ce répertoire qui va de Mozart à Johann Strauss et à Richard Strauss. Avec lequel vous avez obtenu votre premier Grand Prix.
Avec Arianna Naxos, oui, la de Zerbinetta, qui fait 20 minutes.
Oui.
Et puis j'ai débuté en Allemagne dans Sophie du Rosenkavalier.
Vous aimez bien planer dans l'aigu.
Ben, c'est ma voix. Et je dois dire que j'ai débuté dans Chevalier à la Rose à Francfort avec Yvan Rebroff comme
Baron
Ox, qui débutait lui aussi.
Ben, écoutez, en tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Oh, je suis ravie.
Pour évoquer une très très belle carrière, partagée entre des gens différents. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes plutôt, dans votre goût profond, une artiste de scène ou une artiste de concert?
Les deux, c'est différent. La scène me manque beaucoup, c'est vrai, c'est ce qui manque le plus, le théâtre.
Le théâtre. Mais la mélodie, c'est aussi un genre que vous chérissez.
Ah, j'adore,
hein.
J'adore. Mais c'est vrai que on se lasse pas de ce métier. Même à mon âge, je suis encore dans ce métier.
Voilà, alors votre âge, on va dire...
Oui, on peut le dire.
80 et quelques.
Voilà.
Et une carrière, donc évidemment, maintenant c'est un peu arrêté, mais vous êtes toujours très 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 active. Vous vivez à Trouville?
Je vis à Trouville et je fais partie donc conseil d'administration des Amis de l'Orgue de Deauville, qui était tenu par Dominique Préchez, qui est un grand compositeur et un grand organiste. Et puis nous venons de fonder une nouvelle association qui s'appelle Musica Reservata pour mettre le pied à l'étrier pour les jeunes qui sortent avec un prix. Et il faut qu'ils aient un premier contact avec le public et on trouve que c'est intéressant pour eux. Voilà.
Ça, c'est merveilleux, l'exemple là que vous nous donnez. D'ailleurs, je vous ai rencontré au Festival de musique de Deauville, où vous êtes très présente,
assidue. Ah oui, c'est un bonheur.
Voilà. Alors, on va revenir sur quelques moments de votre carrière et même simplement de votre vie tout court, avec peut-être pour commencer une chanson qui évoque vos jeunes années.
Ah.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Annick Simon, cette chanson, elle évoque pour vous plutôt le Paris de la Libération. D'ailleurs, c'est une chanson qui est sortie pendant la guerre.
Voilà, mais... et je revenais du collège avec une amie qui habitait à côté de chez moi. J'allais de Neuilly à la porte Champéret. Et on chantait à tue-tête, ça, dans la rue, toutes les deux. C'était vraiment notre chanson.
C'était votre chanson de petite parisienne, parce oui. que vous êtes née parisienne.
Ah oui, oui, je suis née dans le 14e.
Voilà.
J'ai vécu presque toujours à Paris, sauf évidemment 6 ans en Allemagne.
Oui.
Et puis, bon, bah, toutes les tournées en Italie, où j'ai chanté un peu partout.
Au début de la guerre, vos parents, comme beaucoup d'autres, ont quitté un temps Paris, et puis finalement, vous êtes revenus.
Oui, oui.
Vous avez des souvenirs de la Libération, par exemple?
Oui, parce que, vous savez, pour une gamine, oui. de voir les brancards avec des têtes qui ça, parce que les gens
sont
morts. Ah oui,
ça vous a frappé,
ça. Ah oui, ça, j'oublierai jamais. Je rêvais que j'avais des morceaux de cadavres derrière la porte de ma chambre, c'était affreux.
Alors, vous pensiez déjà à cet âge-là, petite fille puis jeune fille, devenir musicienne ?
J'ai une anecdote très drôle, c'est que j'avais 4 ans. Je tenais maman par la main, on allait au marché, je lui ai dit, je me demande encore pourquoi, plus tard je serai harpiste ou chanteuse à l'opéra.
Harpiste ou chanteuse à l'opéra, c'est parfait.
Pourquoi ? Je crois qu'à 4 ans, je ne savais pas ce que c'était.
Et vos parents eux-mêmes étaient mélomanes ?
Ah, ils adoraient la musique. J'ai été bercée. Mon père avait une très belle voix de baryton, ma mère une jolie voix de soprano.
Ah oui, quand même.
Et
ah
j'ai été bercée par tous les duos de Mozart et tout ça.
Ah, il y a pire comme éducation
musicale.
Ah non,
j'ai entendu que de la belle musique chez moi.
Que de la belle musique. Bien que vous ayez projeté à 4 ans d'être harpiste ou chanteuse à l'opéra, vous êtes plutôt d'abord tournée vers le piano.
Bah oui, comme tous les enfants de mon milieu, vous savez, à 6 ans, on nous mettait au piano.
Ouais.
J'ai commencé avec un professeur, une vieille anglaise, j'avais vraiment pas le feu sacré. Et puis, il se trouve que ma mère a assisté à un récital d'une jeune pianiste qui était la fille d'un professeur de mon frère aîné. Et elle a été enthousiasmée, elle est formidable, cette fille. Elle est allée la voir, est-ce que vous donnez des cours de piano? Elle dit, mais oui, madame. Ben, je vous envoie ma fille. Et cette fille qui était jeune et tout, ça m'a enthousiasmée. Et puis voilà.
Alors ensuite, la rencontre de Jean Doyen, grand pianiste et
Jean
professeur.
Jean Doyen, piano. On avait des concours, évidemment, parce que je travaillais avec une répétitrice, et toi. Et puis, à un moment donné, elle a dit vraiment, elle est nulle en solfège, celle-là, c'est pas possible. Alors, on m'a envoyé chez la célèbre Madame Samuel Rousseau, qui était le grand professeur de l'époque.
Il y avait... Et son mari, grand compositeur.
Et j'ai fait de l'harmonie avec Marcel Samuel Rousseau.
Il était comment, Marcel Samuel Rousseau?
Adorable.
Adorable.
Ah oui, puis elle aussi.
À quel moment, Annick Simon, vous êtes passé du projet du piano à celui du chant?
Grâce à Madame Samuel Rousseau. Parce que j'avais fait mes études classiques, et à cette époque-là, les jeunes pianistes, à 12 ans, ils n'allaient plus en classe. Ils...
Ouais.
J'étais très en retard pour le piano. Moi, j'ai toujours été attirée par le chant, mais pour mes parents, ce n'était pas très sûr. Et alors, elle a appelé mes parents, elle lui a dit, mais qu'est-ce qu'elle va devenir à son âge, un vieux professeur de piano, etc. Sans quel intérêt. Il faut qu'elle fasse du chant. Et c'est elle qui m'a envoyée vers Georges Jouatte.
Georges Jouatte, alors ça, c'est en 1950.
Voilà.
Votre professeur...
Enfin, un petit peu avant, puisque j'ai travaillé un an avec lui avant. Pour.
Il a été aussi, en tout cas, le professeur de Régine Crespin et de quelques autres.
Il a été donc le professeur de fin de cours de Régine Crespin.
Voilà, qui avait commencé avec un autre.
Mais
vous l'aimiez beaucoup, Georges Jouatte. Hein.
Oh, je crois que l'un et l'autre, on avait une passion l'un pour l'autre.
Ah bon, à ce point-là?
Ah oui. Moi, j'avais une adoration pour lui et il m'aimait bien. D'ailleurs, quand il me présentait à des collègues, parce que une de mes élèves, qui est ma fille, parce qu'elle ne peut pas être autre chose, parce qu'à ce moment-là, j'avais 19 ans. Et j'ai trouvé ça très charmant comme expression.
C'était un vrai grand chanteur. En fait, on le connaît mieux aujourd'hui pour les quelques disques d'opérette qu'il a fait à l'époque.
Oui, la damnation de Faust, c'est Georges Jouatte. Le Requiem de Berlioz, c'est Georges Jouatte.
Voilà, mais l'Auberge du Cheval Blanc, c'est aussi Georges Jouatte.
Ça, je ne l'avais jamais entendu là-dedans.
Extase nouvelle, splendeur que je vois, mon rêve à des ailes, quand je suis près de toi.
Ces rares délices, ô titre et moi, mais tu avec où je m'en réjouis.
La création de l'Auberge du Cheval Blanc, version française à Mogador en 1932, c'était Hélène Régélie avec Georges Jouat, votre professeur Annick Simon. Oui. Vous me disiez cette chose incroyable en l'écoutant.
Oui, il était gazé de guerre de la guerre de 14-18, il avait qu'un poumon. Et d'ailleurs, il nous faisait sentir, il avait un poumon desséché. Quand on sentait sur sa poitrine, on entendait comme un bruit de papier de soie.
Voilà, et ça n'avait pas altéré sa voix de beau ténor.
Et quand on pense qu'il a chanté dans Don Juan et tout ça, des vocalises où il... Je me demande comment il faisait pour ne pas respirer. Il était extraordinaire.
Qu'est-ce qui vous a appris d'essentiel, Georges Jouat?
Bah, il m'a posé la voix. Moi, je suis arrivée chez lui, je n'étais passée pas le sol. Le premier jour, il m'a auditionné, il m'a fait faire un contre-fa. Il m'a dit, bon, bah, t'es soprano léger. Il m'a dit une chose extraordinaire. Il m'a dit, oh, bah, tu sais, j'aurais une fille, bon, je ne lui ferais pas faire ce métier-là. Mais c'est vrai que j'étais amie avec Lélie Pons et que... T'as deux fois plus de voix qu'elle.
Ah bon, bah c'est bien pour commencer. Georges Jouat, en tout cas, bah voilà, vous a mis sur la voie. Et alors, assez vite après, votre carrière s'est enclenchée avec... On va évoquer différents aspects, mais je commence par... Aix-en-Provence, Hans Rosbaud, Gabriel Dussurgé, très vite.
Exactement, Gabriel Dussurgé m'aimait bien. Et j'ai débuté en tant qu'encore élève du conservatoire dans Barberine, des Noces de Figaro.
Dirigé par Rosbaud.
Et c'est tout de même, il y avait un air quand même. Et puis des récitatifs avec Michel Roux, Figaro.
Ça devait être merveilleux l'ambiance d'Aix-en-Provence de ces années-là.
Pour une gamine qui n'a encore rien fait. Puis alors, j'étais le bébé, alors tout le monde était adorable avec moi. C'était absolument... Et puis c'était assez féerique, parce qu'il y avait des réceptions dans les châteaux, les environs et tout ça. Par moments, je me demande est-ce que je l'ai rêvé. Enfin, pour moi, c'était extraordinaire.
Alors, Dussurgé vous a engagé régulièrement.
J'ai fait beaucoup de choses avec Dussurgé, parce que j'ai fait après ça toutes les tournées du Festival d'Aix-en-Provence, avec le Barbier de Séville, Mariage secret de Cimarosa, avec Michel Sénéchal et toute la bande de copains.
Un vieil ami, Michel. Hein,
oh, vieil ami. Si jamais il entend cette émission, je l'embrasse de tout mon cœur. Mais... On a fait tellement de choses.
Mais alors, quand on sortait du conservatoire, en général, on allait aussi dans la troupe de l'opéra, d'abord.
Non, pas à mon époque. Et puis, je n'ai jamais eu le premier prix du conservatoire de Paris. J'ai eu qu'un second prix, avec toujours Zerbinetta derrière la Naxos.
Donc, vous avez chanté à l'opéra, mais vous n'êtes pas entré automatiquement dans la troupe, comme
pas
souvent les chanteurs de la génération d'avant,
en tout cas. Oui. Ce qui m'a fait débuter, c'est les semaines de la Rose à Genève, où, par Dussurgé, j'étais engagée pour chanter L'amour d'Orphée. Et c'était au moment où je devais repasser mon concours pour essayer d'avoir le premier prix. Et j'ai dit à mon professeur, qu'est-ce que je dois faire? En tant que professeur, je te dis, tu passes le concours. En tant qu'ami, je te dis, va faire ton métier, fous le camp Genève.
Et c'est là que vous avez chanté Zerbinette.
Alors non, à ce moment-là, j'ai chanté donc L'amour d'Orphée. Maman m'accompagnait, parce que j'étais encore assez jeune. Et elle a vu au conservatoire la pancarte pour le concours international. Et le soir, je rentre à l'hôtel et elle me fait, je t'ai inscrit au concours international. Je lui dis, t'es complètement folle, je suis pas de niveau. Je téléphone à Jouat, je lui dis, maman est folle. Il me dit, elle a raison, on va travailler. Et il a fait une chose extraordinaire. C'est que c'était au mois de juillet et que le concours était en septembre. Il allait passer ses vacances à l'île de Ré. Il m'a dit, tu vas venir passer un mois à l'île de Ré avec moi et on travaillera tous les matins. Et on a travaillé tous les matins de 10h à 13h. Il ne m'a pas pris un centime.
L'air de Zerbinette d'Ariane Anaxius.
Alors, l'air de Zerbinette, il y avait un rameau, j'avais un programme.
Et vous avez gagné le concours. Mais alors, il faut dire qu'entre-temps, effectivement, Annick Simon, vous aviez participé à un enregistrement discographique historique, on peut dire. Vous disiez à l'instant, on vous prenait pour une petite fille, mais là, pour le coup, vous avez joué le rôle d'un petit garçon.
J'étais petite et menue à l'époque, j'ai toujours petite.
C'est le fameux enregistrement de Péléas et Mélisande, dirigé par Jean Fournet, avec Camille Morin.
Qui est divin, Michel Roux.
C'est vous qui chantez le rôle du petit Tignol. On vous écoute tout de suite. Péléas et Mélisande, l'enregistrement de Jean Fournet avec les concerts L'Amoureux, Camille Morin, Janine Michaud.
Michel Roux.
Et puis Annick Simon. C'est merveilleux parce que votre petit Tignol, il a vraiment l'air d'un enfant. Vous aviez une vingtaine d'années, vous étiez une jeune fille, mais vous l'avez vraiment joué comme un enfant.
Oui, j'ai beaucoup joué l'enfant, les sortilèges aussi.
Oui.
Et un enfant, ça ne parle pas comme une grande personne. Quelquefois, ça ne fait pas les liaisons parce que ça ne connaît pas. Donc, il ne faut pas parler comme une grande personne. Il faut dire quelque chose à quelqu'un. Ouais. J'ai entendu un petit Tignol, il disait « quelqu'un !» Non, je suis désolée.
Il ne faut pas que ce soit trop vocal.
C'est pas vocal.
En tout cas, des beaux débuts dans le monde du disque.
J'avais beaucoup, beaucoup chanté, Jacques Janssen aussi, avec tout ça.
Voilà,
c'est Péléas. Très, très beau souvenir.
Vous êtes rentrée assez jeune aussi, parce que ça faisait partie du métier, au fond, à l'époque, à la radio. Alors, c'était quoi exactement le rôle de la radio dans la carrière et comment ça se passait?
Quand j'ai eu mon prix de Genève, j'avais donc un prix, etc. On m'a dit, il faut aller chanter à la radio. À ce moment-là, on passait un examen. un examen micro pour savoir si la voix correspondait, etc.
Ah oui, un examen micro.
On passait un examen, il fallait avoir la carte radio pour y chanter.
Et à ce moment-là, il y avait une carte.
Ah, il y avait une carte radio.
Et on devenait chanteur titulaire de la radio.
Voilà, exactement. On m'a téléphoné un matin chez moi, vous connaissez le rôle d'Adèle de la chauve-souris. J'ai dit, ah oui, je connais que ça, je ne l'avais jamais entendu, jamais chanté. Mais comme grâce à Madame Samuel Rousseau, je dis, j'y ferai bien. J'ai couru chercher la partition. Il me dit, répétition à 2 heures. Oui, et c'est comme ça que je me suis lancée en concert public avec Adèle de la chauve-souris.
Dans les archives précieusement conservées par Lina, vous avez beaucoup, beaucoup enregistré à la radio. Et puis alors, vous avez été de toutes les aventures. C'est-à-dire qu'il y avait le lyrique, mais il y avait aussi la mélodie, il y avait la musique ancienne, enfin, etc. Vous avez vraiment beaucoup travaillé ici.
Ah, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pour la radio. Et la maison de la radio n'existait pas.
Ah, ça se passait où d'ailleurs
Alors, les concerts de musique de chambre se passaient à l'école normale de musique. C'est-à-dire quand il y avait des choristes, l'orchestre, les chanteurs, on avait presque les pieds, vous voyez, en dehors du plateau. Et puis, après ça, on est allé Salgavo. On est allé Salgavo, mais alors les enregistrements, c'était terrible, parce qu'il y en avait un à Montparnasse, il y en avait un autre dans le 16e.
Oui, Armand Moisan.
Oui, il y avait Armand Moisan. Alors, il fallait bien regarder le contrat pour savoir où il fallait aller, parce que ça changeait à chaque fois.
Ah oui, et après, tout a été centralisé ici.
Oui, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts en public à l'auditorium.
Alors, on va écouter deux exemples de votre carrière radiophonique. Et puis, c'est intéressant, parce que ce sont des offres qu'on n'entend plus jamais. La première, c'est dans une émission qui s'appelait De la mélodie à la chanson, en 1959, et c'était comment des grands compositeurs s'inspiraient du genre de la chanson. Oui. On va vous retrouver en duo avec Michel Brottier.
Ah,
je
ne
sais pas s'il avait un lien avec la grande...
C'était le fils d'Yvonne Brottier.
Voilà. Et au piano, on la voit souvent aussi dans les enregistrements de Camille Morane, Lily Bienvenue,
bien sûr, on a fait des tournées ensemble.
Voilà. Et là, vous chantez une petite mélodie, mais en forme de chanson populaire, de Gabriel Pierné.
Des évêques
trônent tous les jours et le dimanche avec.
Lola, Lola, battons la semaine ou des Lola, battons la semaine, le beau temps viendra.
Tous les lundis, ils s'en font une fête.
Tous les lundis, ils s'en font une fête.
Et les mardis, ils ont mal à la tête.
Lola, battons la semelle au guélon-là, battons la semelle, le beau temps viendra.
Les mercredis, ils vont boire chopinette.
Les mercredis, ils vont boire chopinette.
Et les jeudis, ils faisont leur couchette.
Lola, Lola,
battons la semelle au guélon-là, battons la semelle, le beau temps reviendra.
Les vendredis, s'assieds sur la sellette.
Les vendredis, s'assieds sur la sellette.
Les samedis, petite est leur recette.
Lola, Lola,
battons la semelle au guélon-là, battons la semelle, le beau temps reviendra.
Mais le dimanche,
dimanche, ils chantent à plein bec.
Les cordonniers sont pires que des évêques.
Lola, Lola,
battons la semaine, voguez Lola, battons la semaine, le beau temps viendra.
Voilà, c'était en 1959, l'émission De la mélodie
de
à la
mélodie,
chanson.
De la mélodie, et on l'a fait en récital à l'École normale de musique aussi.
Ah voilà, alors il y a plein de pièces de Roussel, de Tomasi, de tas de compositeurs de l'époque.
Vous souvenez, je n'y pensais plus.
Vous l'aviez oublié, mais là c'est revenu, oui. Et vous alliez répéter, vous me disiez, justement, chez Yvonne Brottier, la grande Yvonne Brottier. Elle était comment,
adorable.
Cette femme?
Oh, c'est une dame très âgée, mais adorable. Son fils aussi, d'ailleurs, Michel, c'était un amour. Il était gentil comme tout.
Mais en même temps, au même moment, vous continuiez aussi votre carrière, si j'ose dire, mozartienne, commencée à Aix-en-Provence, puisqu'en 1957, vous avez été associée aux manifestations du bicentenaire de la naissance de Mozart.
Voilà. J'étais la seule soprane. Ouais. J'ai chanté à la messe. On avait fait une messe à Saint-Eustache en honneur de la mère de Mozart. Et puis on a fait des concerts, on a fait un disque, il y a eu un disque Mozart à Paris.
Chez Deka.
Et chez Deka, ouais. Avec un truc inchantable, pour les détessaliers, avec des contresols, c'était affreux. Ouais.
Mais Mozart, somme toute, c'est un des compositeurs qui vous va le mieux ou pas ?
Vous savez, c'est le meilleur compositeur à chanter, c'est extraordinaire. Oui, oui. C'est terrible. J'adore Bach, mais Bach, c'est inchantable. il respire pas. Tandis que Mozart, c'est un bonheur de chanter Mozart.
Alors, deuxième petit souvenir des années de la radio, parce que vous avez fait, il faut le dire aussi, Annick Simon, vous avez fait beaucoup de musique contemporaine, ça faisait partie du métier.
Exactement.
Hein, oui, on peut citer par exemple la Dolorès de Jolivet, que vous avez chanté, vous aimiez cette œuvre.
Ah, hein. Oh, j'ai adoré. C'est une comédie, c'est une femme qui est laide et qui d'un coup devient belle. Et alors dans la rue, il y a le bel Hidalgo qui me fait la cour et je chante « Je suis belle, je suis belle
!» Et puis alors dans le genre aussi, alors la vraie musique contemporaine d'après-guerre, un des premiers musiciens sériels français, hein, très oublié aujourd'hui, il est mort à près de 100 ans en 2011, c'était Jean-Louis Martinet.
Jean-Louis Martinet, oui.
Ben, on va vous retrouver dans des poèmes de René Char, évidemment.
René Char, Salgavo.
De contemporaine de l'époque, c'était souvent René Char.
Oui.
Salgavo, vous vous rappelez ?
Salgavo.
Notre concert se continue par trois poèmes de René Char pour voix de femme et petit orchestre, mis en musique par Jean-Louis Martinet. Ils vont être interprétés par Annick Simon, soprano.
Décembre 1956, des poèmes de René Char pour voix de femme et petit orchestre de Jean-Louis Martinet, avec en plus la présentation inimitable de Jean Toscane, grand monsieur de la radio de l'époque, Annick Simon. Voilà, en tout cas, encore un document très très rare. Et puis je voudrais rester encore, parce que au fond l'histoire de la radio me passionne, et je crois intéresse aussi nos auditeurs, sur le troisième volet. Alors il y a la mélodie, il y a la musique contemporaine, et puis il y a évidemment le répertoire lyrique, et notamment le répertoire lyrique léger, et là vous avez aussi beaucoup participé. On trouve d'ailleurs en disque certains de vos enregistrements, Geneviève de Brabant, Le Grand Mogol.
Le Grand Mogol, j'ai chanté aussi Ciboulette.
Cette troupe-là, j'ai envie qu'on évoque un peu quelques-uns des personnages. Émédonia,
André Vessière, Michel Sénéchal, Michel Roux, Michel Trampon. Paul de Rennes, on a aussi.
Paul de Rennes venait chanter aussi.
Oui, j'ai fait d'autres choses avec Paul de Rennes. Vous savez, on était une équipe très soudée.
Oui.
Ça, c'était extraordinaire.
C'était amical, c'était pas la concurrence.
Pas du tout, on se voyait même en dehors des présentations, on fait des enregistrements. On se retrouvait d'ailleurs un peu partout parce que c'était toujours la même bande, quoi. Et c'était merveilleux. Il y avait vraiment une camaraderie, on s'entendait, pas de rivalité, pas de choses. Et ça, c'est très, très important.
Les chefs d'orchestre, alors Marcel Cariven, c'était comment le travail avec Cariven ?
Oh, génial, oui, ouais. Adorable. Oh, écoutez, je ne peux pas dire que j'ai eu quelqu'un ou quelque chose qui m'aidait plus dans le travail.
Oui.
Je suis tombée sur des gens merveilleux. Enfin...
Mais quand on enregistrait une opérette ou un opéra comique au service lyrique, on n'avait pas beaucoup de temps pour le monter.
Mais non !
Comment ça se passait?
Mais souvent, on enregistrait ces opérettes pour la francophonie.
Oui.
Alors, nous, on avait les partitions, etc. Bon, on faisait une lecture, quoi, puis on partait. Ça allait très,
une
très vite.
Une lecture et ensuite on enregistrait.
Enfin, une lecture peut-être deux, mais enfin, bon, on allait très très vite, quoi.
Donc, vous étiez tous des bons lecteurs.
Oh ben oui,
c'était la condition.
C'était des choses qu'on connaissait déjà quand même un petit peu. Qui ne connaissait Ciboulette.
C'est vrai. Alors, on va vous retrouver tout de suite, c'est le troisième document de la radio, puis après on va parler de votre carrière en Allemagne.
Oui.
Mais dans un enregistrement qui n'est pas réédité en disque, c'est pour ça que j'ai choisi, c'est Les Bavards d'Offenbach.
Ah, Les Bavards d'Offenbach.
Enregistré en 1960, avec, je cite, Fanélie Révoile.
Ah oui, c'est possible, oui.
Voilà, René Lenoti.
René Lenoti, bien sûr, il était souvent avec nous.
Et Médonia, et c'est sous la direction de Capdevielle.
Capdevielle, c'était le directeur de la musique de chambre.
Oui.
Et j'ai fait énormément de concerts avec lui. Tous les concerts sérieux de musique de chambre et les mélodies, ça passait par le service de Capdevielle.
Alors là, on vous retrouve, je pense, en duo avec Médonia dans un morceau qui évoque justement le sujet de l'opéra, Les Bavards.
Les Bavards.
Écoutez ce bruit argentin.
Je connais ce bruit argentin. Là haut, là haut, c'est mon oncle qui porte la somme, la paix, se porte la mort. Que dans un instant, il lui faudra payer comptant. C'est lui qui compte son argent.
Pas de crainte qu'il survienne. Pas de crainte qu'il survienne. Tous deux causent tendrement. À quel bonheur!
Soyez prudents.
Ici nul ne peut nous entendre.
Mais si l'on allait nous surprendre, c'est lui qui compte son argent.
Pas de crainte qu'il survienne.
Tous deux causent tendrement.
Que je t'embrasse encore.
Mon baiser,
partages-tu l'ardeur qui me dévore?
Aime tendresse nous unit.
Il compte encore, rien ne nous presse. Ah, s'il pouvait compter sans cesse.
Et transport.
À quelle ivresse? Reste encore de grâce, nous avons bien le temps, puis nous avons le temps.
C'est lui qui compte son argent.
Pas de crainte qu'il survienne.
Sans songer, non, attendons.
Tous deux causons tendrement.
C'est lui qui compte son argent.
Pas de crainte qu'il survienne.
Sans songer, non, attendons.
chante causant tendrement.
Causant, oui, causant, je t'écoute comme un moment. À causant, encore un moment.
Ravissant enregistrement, ce petit duo des bavards d'Offenbach.
Ça me fait un souvenir, je ne me rappelais plus et je retombe dedans.
Ah, c'est ça qui est merveilleux avec vous, parce que vous ne vous rappelez plus les morceaux, puis au fur et à mesure que vous les écoutez, je vous vois toutes les paroles reviennent.
Ah oui.
Et là, Emedonia, en plus, qui était un partenaire de choix.
Oh oui, bien-être charmant, et ouais. C'était un bonheur de travailler avec lui.
Alors, après toutes ces expériences radiophoniques et autres, vous êtes parti donc en 1964 pour l'Allemagne, voilà, où s'est déroulée une très importante part de votre carrière, à l'Opéra de Francfort principalement.
Oui.
Comment ça s'est passé en fait?
Oui, j'ai entendu dire par quelqu'un qu'il y avait un directeur artistique qui s'appelait comme ça, à Francfort. J'étais un petit peu à Paris, je trouvais, etc. Et j'ai écrit, j'ai envoyé mon curriculum vitae. Ils m'ont répondu tout de suite en disant « Madame, on n'a pas de place, mais si vous passez par Francfort, venez vous faire auditionner. »
Auditionner, alors.
Quand j'avais aucune raison de passer à Francfort, j'ai dit « Bon, avec ma famille, on est parti, on se dit « On va passer quelques jours à Francfort. » Et là, j'ai auditionné. Ils m'ont fait chanter « La Reine de la Nuit », ils m'ont fait chanter « Ariana Naxos », etc. Et puis le directeur artistique arrive à la fin de l'audition, il me dit « Madame, est-ce que vous pouvez rester 3 jours de plus ?» Bah, j'ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Il me dit « Écoutez, voilà, on voudrait vous entendre sur le plateau. » Et puis, on voudrait vous entendre dans Le Chevalier à la Rose. Et moi, je l'avais chanté, mais en français.
Ah voilà, j'allais dire, c'était...
Voilà, je l'avais chanté au Festival de Vichy en français.
Mais l'allemand, ça ne s'apprend pas comme ça, quand même.
Bon, je fais l'allemand en classe, quand même.
Ah,
donc,
oui.
Bon, j'avais quelques notions. Mon père parlait très bien l'allemand.
Ah, voilà.
Mais donc, je suis restée 3 jours avec un pianiste autrichien adorable qui parlait très bien le français, qui m'a fait travailler à fond pendant 3 jours. Et 3 jours après, on se retrouve sur le plateau où ils me font chanter bon, l'entrée de Sophie. Ils recommencent avec La Reine de la Nuit, nanana, nanana. Et quand on sort, le directeur vient vers moi et me dit « Vous restez ».
Ah, c'est extraordinaire.
Alors, je lui dis « Mais attention, moi j'avais des représentations à l'Opéra de Marseille. À ce moment-là, je jouais dans Lulu. Jusqu'à quand? Ben, je crois que c'est le 4 novembre, etc. Bon, ben, le 5, vous êtes là. » Je lui dis « Laissez-moi un jour que je change mes bagages en passant par Paris. » Et c'est comme ça qu'au mois de novembre, j'ai débuté dans Sophie du Chevalier.
Mais alors, vous vous êtes installé
à Francfort, oui, ah, bien sûr, ils m'ont engagé à l'année. Parce que vous savez, il y avait encore des troupes en Allemagne.
Oui, c'est ça.
Alors, il n'y avait pas de grandes vedettes, si vous voulez. Mais on jouait tous les jours ensemble. Donc, on se connaissait. Il y avait une unité et c'est ça. Un bon spectacle, une unité.
Et la vie allemande après la vie parisienne?
Ce qui a été le plus dur, c'est après les premières représentations, je rentrais chez moi me faire cuire mon petit beefsteak. Et ça, c'était atroce. Parce que tous mes copains, ils étaient mariés, rentraient chez eux, etc. Ouais. Puis j'ai fini par connaître des gens, on finissait dans les Weinstubes, c'était beaucoup plus sympathique.
Vous avez joué plus de 900 fois à l'Opéra de
Francfort,
oui.
Alors,
et dans d'autres villes d'Allemagne aussi.
Ça se passait comme ça. En Allemagne, il y avait beaucoup de troupes.
Oui.
Et alors, dans chaque couloir des deux opéras, on voyait afficher toutes les affiches de tous les théâtres d'Allemagne. Et comme, généralement, dans tous les théâtres, il y avait 2 personnes par rôle.
Ouais.
Mais les sopranos légers, il n'y en avait pas.
Ah,
voilà. Alors, j'ai chanté partout parce que Berlin appelait mon directeur « Est-ce que votre soprano léger est libre ce soir ?» Il lui disait « Oui, bon, vous me l'envoyez. » Alors, j'ai chanté Musette.
Vous avez eu des partenaires prestigieux, hein, Fritz Wunderlich, par exemple.
Oh, ben, Wunderlich, alors, c'est la reine de la nuit à Munich, avec sa valise.
Ah oui, quand même. Erika Köth, merveilleuse.
Ben, c'était elle qui chantait Bamina, alors qu'elle avait chanté La Reine de la Nuit. Et alors, elle était arrivée dans ma loge en me disant, ma petite, vous savez, est-ce que vous voulez un cognac? J'étais étonnée. Et elle me dit, vous savez, quand je chantais La Reine de la Nuit, j'en prenais un par contre fa. Je lui dis, je vous remercie beaucoup, mais j'ai pas l'habitude.
Lisa Della Casa, mais
Lisa Della Casa, j'ai fait Le Chevalier à la Rose à Genève avec elle. Et mon cher Carlos Kleiber.
Vous avez travaillé sur la direction de Kleiber.
Oui, alors on a fait ça. Je suis arrivée en catastrophe parce que là, je parle, j'ai fait la dernière représentation d'une série parce que sans doute la Sophie était malade. Et on n'a pas répété du tout. Hein. Dans ces cas-là, on arrive, on ne répète pas du tout. Et puis je sors de scène au deuxième acte, elle n'a rien à faire. Et le machiniste me dit, elle ne vous a pas gêné? Je dis, non, pourquoi? Elle ne vous a pas quitté des yeux? Je dis, bon, j'avais autre chose à penser. Et puis, quand est arrivé le trio final, elle m'a toisé, elle m'a regardé. Elle a commencé pianissimo. Et moi, je dois reprendre la même note qu'elle. Je la reprends pareil, etc. Elle m'a fait...
un petit clin d'œil.
On a fait ce trio. À la fin, Carlos est venu dans notre loge et nous a dit « Mes chéris, je crois que de ma vie, j'ai entendu un trio comme ça. »
Vous dites Carlos, il dit « Mes chéris », c'est un homme accessible,
Oui. Même si on se voyait une première fois.
Parce qu'aujourd'hui, on le voit comme une légende.
Il n'était pas encore très connu, moi, quand j'ai fait. Et alors là, si j'étais avec lui, il vous regardait, il souriait, c'était merveilleux.
C'est important qu'un chef vous regarde.
Ah oui, bah, c'est le principal. C'est le principal, ça c'est sûr.
On va vous retrouver tout de suite, Annick Simon, alors, dans un répertoire tout différent. Et c'est ça que vous aimez, je crois, justement, dans cette ère de Jules César.
Alors là, c'est un Salgavo, donc on a fait cet enregistrement. Ouais. Et pour une fois, on ne m'engageait pas pour faire des petites cocottes, faire des petites soubrettes, gna. Et bon, j'ai adoré faire ça, parce que c'est une autre voix.
Cléopâtre dans Jules César de Handel.
Ah, c'était un rêve.
Par Annick Simon. sous la direction de Pierre-Michel Lecomte, encore un autre trésor de la radio.
Bien sûr,
il va falloir rassembler tout Annick Simon, faire une anthologie, là, un séjour en disque.
Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses, c'est vrai, à la radio, avec bonheur d'ailleurs, parce que c'était ma maison.
Vous êtes resté combien d'années en Allemagne ?
Six ans et demi à peu près. J'étais fixe à Francfort. Et puis de là, comme je vous expliquais, quand ils avaient besoin d'une soprano léger, les différents opéras appelaient. C'est comme ça que j'ai chanté à Berlin, à Munich et à Cologne, où j'ai chanté Gilda. Et que pour la première fois, mais la seule fois de ma vie, on m'a fait bisser l'air de Gilda.
Ah oui, c'est quand même extraordinaire.
À l'opéra, c'est quand même beau.
C'est des moments qui restent, en tout cas.
Ah oui, c'est ça, c'est sûr.
Une carrière de chanteuse, comment est-ce qu'on décide d'arrêter ou de ralentir ou de diminuer dans votre cas ?
Si on commence le professorat, on commence tout ça. Donc, quand je suis rentrée d'Allemagne, j'ai quand même fait encore des concerts à la radio. J'ai quand même fait beaucoup aussi en province, des passions, des choses comme ça. J'ai fait beaucoup de concerts, le Messie. Et puis bon, le professorat m'a un petit peu bouffé.
Mais d'arrêter la scène, c'est pénible.
C'est très dur, mais bon, j'avais plus de moyens à Paris. Du temps de Dussurger, on a quand même fait une soirée Ravel à l'Opéra de Paris, ouais, avec L'Enfant et les Sortilèges. Mais là, je ne chantais plus L'Enfant, je chantais Le Feu et Le Rossignol. Et puis L'Heure espagnole, et puis une sublime chorégraphie de Daphnis et Chloé, que j'adore. Et c'est Dussurger qui nous avait montré, c'était Manuel Rosenthal qui nous dirigeait.
Voilà, le grand Ravelien qui était cher Manuel Rosenthal.
Ouais, exactement.
Et entre-temps, donc, vous vous êtes entré comme professeur à l'École normale de musique.
Alors, il se trouve qu'avec Pierre Petit, je le connaissais bien, parce qu'à cette époque-là, à la radio, il y avait un prix qui s'appelait le prix Italia. Toutes les radios d'Europe, enfin, montraient une œuvre, et puis il y en avait un qui avait le prix. Et Pierre Petit me dit, je t'écris quelque chose pour toi, et ça s'appelait Furia Italiana,
sur un livret de Michel Déon, d'ailleurs,
Michel Déon, exact,
qui était venu nous en parler dans cette émission, figurez-vous.
Et alors, on a eu le prix, et on l'a chanté partout, et là, j'aimais beaucoup... Allez, c'est là-dessus que Pierre m'a demandé, faut que tu viennes comme professeur à l'école, il était directeur de l'École normale, il me disait toujours, moi, tu comprends, quand tu chantes, ça me faisait des gousi-gousi dans le dos.
L'expression est parfaite.
J'adorais Pierre Petit, c'était un être charmant et tellement, tellement bon musicien, c'est extraordinaire.
Malheureusement, on va devoir bientôt se quitter, Annick Simon, mais alors, on s'est dit, voilà, on va quand même rendre au moins un petit hommage dans l'émission encore, et là, vous m'avez dit, oui, surtout lui, Gérard Souzet.
Ah oui.
Votre partenaire aussi dans Péléas, où il chantait Golo.
Mon partenaire, nous avons joué Péléas à l'Opéra de Rome, sous la direction d'Ernest Ansermet, c'était la première fois qu'il chantait Golo. Et j'en ai gardé un souvenir inoubliable.
Mais cet homme, donc, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Au fond, qu'est-ce que vous aimiez chez lui, chez Souzet?
Il était extraordinaire. Quand j'avais dit à des collègues, tu sais, je vais chanter avec Gérard Souzet, tu vas voir, il va te snobber. Or, il est arrivé d'une humilité extraordinaire. Il est venu vers moi, j'étais débutante. Hein. Il m'a dit, t'es musicienne, toi. C'est la première fois que je le chante. Tu vas me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas demander aux autres, les autres, ils ne me le diront pas.
Ah oui.
Et j'étais très impressionnée. J'ai dit, comment dire au grand Gérard Souzet quelque chose? Et il y avait une phrase où il doit dire les jours de nos noces. Il faisait les jours de nos noces. Je dis, tu peux pas le laisser dire les jours de nos noces? Alors je lui dis, écoute, Gérard, je suis désolée, mais dis bien non. Et à chaque fois qu'il le chantait, il me regardait, il faisait de nos noces. J'ai trouvé ça d'une humilité extraordinaire.
Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est vêtu de broderie, le soleil rayant clair et beau. Il n'y a bête de oiseau qui, en son jargon, le chante crie. Le temps a laissé son manteau. Porte ton livret joli, goutte d'argent dans le favori. Chacun s'habille de nouveau. Le temps a laissé son manteau.
Voilà le petit hommage d'Annick Simon à Gérard Souzet. Ici, bien sûr, dans une mélodie de Debussy. Annick Simon, vous avez aimé l'enseignement?
Je suis restée 21 ans à Créteil, qui était une école nationale tout de même. Et puis, bon nombre d'années à l'école normale, puisque jusqu'à 73 ans, il voulait que je reste jusqu'à 75, ben 73, je leur ai dit.
J'ai décidé d'arrêter.
Mais, et alors, s'il y a une chose extraordinaire, c'est qu'il y avait beaucoup de japonaises et de coréennes, etc. Et j'ai des japonaises, mes élèves, qui viennent tous les 6 mois encore en France pour travailler leurs concerts, travailler toutes les mélodies et les leads avec moi. Ils viennent tous les 6 mois en France pour travailler avec moi.
Mais alors à Trouville ?
Alors je viens à Paris quelquefois. Et bon, j'ai ma pianiste japonaise qui habite Paris, mais alors elle vient à Trouville, de temps en temps, Trouville.
Qu'est-ce qu'a décidé la petite parisienne, pure parisienne, aux racines vaguement bretonnes, de s'installer finalement en Normandie?
J'ai une petite maison de campagne à 30 km de Trouville-Deauville, mais je jouais en réalité à la messe du dimanche, je tenais l'harmonium quand j'étais en vacances. Et un jour, j'ai d'abord eu un harmonium à pédale, en principe on m'a mis un petit truc électronique, et puis après ça, ils ont acheté vraiment un orgue électronique très bien. Et me dit, tu vas faire un concert pour l'inauguration de l'orgue. Je dis, mais je suis pas organiste. J'accompagne les cantiques et tout ça, mais je suis pas organiste. Alors, j'ai dit, vous avez, qui habite justement Bonnebeau, c'était l'organiste de Bonnebeau, l'organiste de Trouville qui habite là, il faut que ce soit l'organiste de Trouville qui fasse ça. Ah bon? Alors, ils la demandent. Et puis, ils ont pas osé. Ils m'ont dit, il faudrait que tu chantes quelque chose quand même. Alors, l'organiste de Trouville m'a téléphoné. J'ai chanté le Quia respexit du Magnificat de Bach. Et on est devenus amis. Et alors, j'allais à Trouville, j'allais partout, etc. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fous à Paris?
Et vous avez fini par vous installer là-bas.
Et j'ai fini par m'installer
et
là-bas.
Et comme vous nous l'avez dit au début de l'émission, et bien finalement, vous vous occupez de musique, toujours là-bas, très
toujours
activement.
Toujours de musique, oui.
Et de l'orgue de Deauville.
Alors, je veux dire, on a fait donc cette nouvelle association, et il y a un jeune qu'on lance tout à fait, qui est extraordinaire, qui s'appelle Hector Cornillo, et qui est compositeur, qui est organiste, et qui a un talent fou, et voilà, et on essaye de le faire valoir. Voilà.
Merci Annick Simon pour votre vivacité, pour votre bonne humeur et pour tous ces souvenirs passionnants.
Merci, vous venez de me donner un grand bonheur.
Écoutez, on va se quitter avec un extrait de La Vie parisienne, ça vous va?
Ah oui, bien sûr.
La veuve d'un colonel.
Ah oui.
J'espère que vous reviendrez en tout cas continuer de nous raconter quelques souvenirs.
Ah mais quand vous voudrez, mais c'était merveilleux pour moi, vraiment je vous remercie du fond du cœur.
La vie parisienne d'Offenbach dans un enregistrement de l'orchestre lyrique de l'ORTF sous la direction de Marcel Caruven. C'était en décembre 1968 et c'était bien sûr donc avec l'invité que j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui, Annick Simon. Voilà nos exercices du matin pour bien nous délier les doigts. C'était une étude de virtuosité en fa majeur opus 72 de Moscovski, interprétée par Bernard Ringhuysen. Mais maintenant sur France Musique, c'est le moment que vous attendez tous, la chronique de Martin Péné. Bonjour Martin.
Bonjour Benoît, quel accueil.
Écoutez, vous êtes monsieur chanson française sur France Musique et le sujet est vaste, donc votre présence est toujours très importante et très attendue, n'est-ce pas ?
En tout cas, il y a beaucoup à dire, ça c'est sûr.
Oui, d'ailleurs, alors vous allez poursuivre un petit peu un sujet d'une précédente chronique où vous nous aviez parlé des chansons de la prostitution, mais plutôt au 19e siècle.
Oui, parce que l'exposition du musée d'Orsay, Splendeur et Misère, image de la prostitution en France, ça fait grand bruit cet automne. Il s'agissait en fait de la première grande manifestation consacrée au sujet dans un musée national. Eh bien, figurez-vous qu'elle se poursuivra au musée Van Gogh d'Amsterdam du 19 février au 19 juin, donc tout bientôt. Et bon, alors cette exposition, c'est en gros le but de montrer la place occupée par cette réalité sociale dans le développement de l'art moderne. Mais à côté des œuvres d'art, eh bien, l'exposition montre également une grande variété d'objets, de documents d'époque liés à l'histoire de la prostitution et des maisons closes. C'est vrai, le mois dernier, donc, j'ai évoqué les chansons de la Belle Époque en rapport avec le sujet. Mais j'ai senti, cher Benoît, que vous en aviez gardé une petite frustration au sujet des chansons réalistes du XXe siècle. Et certains de nos fidèles auditeurs n'ont pas manqué de me faire la même réflexion. Alors, je vais tenter de combler ce manque. En effet, la prostitution a été un genre très très chanté en France, dans un registre un peu, bon, outrancier parfois, il faut bien le dire, mais ça nous a aussi offert quelques fleurons de la chanson réaliste. Ce sont surtout les interprètes féminines qui ont illustré le genre, comme bien sûr Fréhel, Germaine Lix, Nita Jo, Charlotte Dovia, Berthe Silva, Lise Gotti, Lucienne Boyer, André Turcy et bien sûr Damia, qu'on surnommait la tragédienne de la chanson. Alors elle a commencé sa carrière en 1909, mais elle a attendu presque 20 ans pour se décider à faire des disques. La voici en 1927 dans un de ses premiers enregistrements, La rue de la joie.
Dans les bas quartiers de la ville, il est une rue sans nom. Les maisons à la file ne sont que des cabanons. On y vend l'amour la nuit et le jour. On console bien des misères, donnant aux passants pour très peu d'argent un peu de bonheur éphémère. C'est la rue de la joie, la rue où l'on aime, la rue du plaisir. Malgré sa laideur, on y vient quand même pour se divertir. vient chercher l'ivresse, l'illusion d'une caresse. C'est la rue de la joie, la rue où l'on aime, la rue du plaisir.
Damien, en 1927, dans La rue de la joie. Je suis très surpris, Martin Péné, parce que je vois qu'il y a quatre auteurs, rien que pour les paroles. Ça fait beaucoup, quand même.
Oui, mais parce que c'était tiré d'une revue, en fait, du Palace, ah, oui, qu'elle a joué. Et donc,
tout le monde signé à ce moment-là.
Bah oui, notamment Henri Varnat, qui était le co-directeur du Palace. Donc, ça se faisait beaucoup à l'époque. Mais la musique est donc d'un seul compositeur, Pierre Larieux. Alors, ce thème est assez sensible et présent dans le répertoire de Damien, qui a également chanté sur le même sujet, La fille au matelot, Ce n'est pas toujours drôle, En maison, etc., etc. Et l'ami journaliste Francesco Rapazzini, biographe de Damien, nous a appris beaucoup de choses sur son adolescence difficile et sur la part de vécu que l'on peut deviner à travers ses chansons. Mais alors, je tiens tout de suite à souligner un point important, c'est que si les chanteuses réalistes ont pu s'approprier des chansons qui parfois leur ressemblent, elles n'en ont jamais signé les paroles. Celles-ci sont toujours l'œuvre d'auteurs professionnels masculins. Et ça en dit long sur le regard porté par la société sur ce que l'on appelait alors les filles de mauvaise vie. Ces chansons réalistes que Cocteau désignait comme des tragédies de poche dresse en réalité le portrait émouvant des fleurs de bitume. Jean Tranchant a écrit par exemple « Sans repentir » pour Marianne Oswald. Maurice Aubray, très grand auteur, un peu oublié, mais qui a fait beaucoup de très belles chansons à cette époque, a signé « Les filles ont une âme » pour Germaine Lix, ou « Les filles qui la nuit » créée par Lucienne Boyer et reprise par Fréhel en 1936.
Elles ont dû porter sur leurs frêles épaules un fardeau souvent par trop lourd, subir les plus mauvais et les plus tristes rôles sans se révolter un seul jour. Et toutes cependant, dès qu'un espoir les frôle, toutes croient encore à l'amour. Les filles qui la nuit s'offrent au coin des rues connaissent de belles histoires qu'elles disent parfois mêlant aux phrases crues les chers souvenirs que garde leur mémoire. Mais d'une voix si grave et mouvante et têtue qu'on ne peut s'empêcher de croire les filles qui la nuit s'offrent au coin des rues.
Fréhel dans Les filles qui la nuit en 1936. Martin Péné, décidément, c'est plein de surprises au petit papier parce que là, alors pour le coup, c'est la musique qui est signé par Jean Boyer, qu'on connaît comme cinéaste ou comme parolier, mais plus rarement comme compositeur.
Oui, mais il a parfois fait paroles et musique de certaines chansons, et là, il a fait la musique, simplement. Donc, oui, mais il y a tellement de choses à redécouvrir dans l'histoire de la chanson, Benoît, qu'on n'a pas fini de s'occuper. Et durant l'entre-deux-guerres, c'est par dizaines, voire par centaines, que des couplets de chansons plus vrais que nature dépeignent le sort de toutes ces filles de joie. Et Fréhel apparaît dans plusieurs films où elle incarne une prostituée. En 1938, André Hugon l'a fait tourner dans La rue sans joie, où elle chante une complainte intitulée L'amour des hommes. Et le cinéma des années 30 était friand de ce genre de personnages et ça a donné l'occasion à de nombreuses chanteuses réalistes d'apparaître à l'écran. Et les paroliers, d'ailleurs, ont brossé de véritables tableaux expressionnistes nocturnes, des tranches de vie résumées en trois couplets où seul un détail suffit parfois à évoquer le décor. L'enseigne lumineuse, l'air d'accordéon, la cigarette qu'on roule entre deux passes. Et j'en veux pour preuve ce grandiose « Du feu » interprété par Nita Jo en 1932 dans le film « Toine » de René Gaveau, alors ça c'est un réalisateur que je connaissais pas, dont elle partageait l'affiche avec d'autres chanteurs marseillais. Et le scénario est signé du parolier quasi attitré de Nita Jo, qui se nommait Étienne Récagneau.
Au firmament, dès que la lune brille, on peut la voir. Celle que les bourgeois nomment la fille, fleur du trottoir. Du noir aux yeux, du rouge à ses joues creuses, fuyant les mœurs, elle attend le client, dès qu'apparaît la proie souple enjôleuse, elle s'approche et lui dit tendrement, « Eh, monsieur,
du feu, donne-moi du feu, allume ma cigarette, viens-tu dans ma chambrette, tous deux, on sera heureux. Ardeille, mon langoureux, que ne te dis pas ta femme dans le plaisir, je ferai vibrer ton âme du feu. Donne-moi du feu. Pour son amant qui guette au bar d'en face, elle se vend. Quand elle n'a rien fait, gare à la casse du mécontent. Si le dégoût lui crie sa déchéance, dans le poison, elle endort son tourment. Masque de joie sur des traits de souffrance, dans sa névrose, elle dit tristement. Et psst, du feu, donne-moi du feu, allume ma cigarette, viens-tu dans ma chambrette, oh, tous deux, on sera heureux. Si ton cœur douloureux veut oublier l'infidèle, oh, tu m'étreindras comme si j'étais ta belle. Du feu, donne-moi du feu.
Du feu en 1932 par Nita Joe, artiste un peu méconnue hein, de l'entre-deux-guerres.
Oui, pourtant elle a beaucoup enregistré. Alors apparemment elle vient de Marseille, on a un peu de mal à situer son état civil. C'est une des rares qui reste un peu mystérieuse dans l'histoire de la chanson. Et donc souvent elle chantait ce côté très réaliste en roulant les airs à l'ancienne comme ça. Mais bon, c'est un style intéressant parce que c'est vraiment assez typique de l'époque. Et dans le genre tableau réaliste, je pense également à La prière de la Charlotte, le poème de Rictus magistralement interprété à la même époque par Marie Dubas. C'est pas tout à fait de la chanson, mais ça a énormément marqué. Et pour revenir à la chanson, bah, toutes ces œuvres sombres et pittoresques laissent parfois passer une lueur d'espoir, car certaines héroïnes rêvent encore d'un amoureux sincère qui viendra les sortir du trottoir. Et c'est notamment le cas chez la jeune Édith Piaf lorsqu'elle chante « Elle fréquentait la rue Pigalle » ou bien « L'accordéoniste ». Mais en général, la conclusion ramène la fille à sa triste réalité comme un inéluctable destin. Alors la prostitution, éternel sujet de polémique, on l'a encore constaté récemment par des projets de loi divers, varie dans ses formes, mais jamais dans sa finalité. Alors si le besoin s'en fait sentir, je pourrais parler dans une autre chronique de la période qui a succédé à la fermeture des maisons closes en 1946. Et pour l'heure, je vous laisse en compagnie d'Édith Piaf qui a fait sienne cette magnifique chanson de Michel Aimer, écrite au printemps 1940, en pleine drôle de guerre, qu'elle a enregistrée à vrai dire à plusieurs reprises. Donc là, c'est la version originale, 1940.
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par l'eau, elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison elle sera la caissière et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas, et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux, et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par l'eau, elle a envie de pleurer, c'est physique. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit.
La jeune Édith Piaf en 1940, dans cette version originale donc de l'accordéoniste, paroles et musique de Michel Aimer. Voilà, c'était la chronique de Martin Penet sur les chansons du trottoir. C'est d'ailleurs le titre d'un album de deux CD très bien fait chez Frémo, dans
oui,
mes
c'était
souvenirs.
Oui, c'était concocté par André Bernard, que je salue s'il nous écoute, voilà. Donc qui effectivement avait eu l'idée de développer ce thème.
Les chansons du trottoir, un disque que vous pouvez écouter en prolongement de cette chronique. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteur très préparée par Pauline Boisaubert. Aujourd'hui, à la technique, Philippe Palares, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, hommage à Bernard Sinclair, grand artiste d'opérette qui nous a quittés le 27 novembre. On le retrouvera dans un des entretiens qu'il avait enregistrés pour cette émission.